Merci à José Maria Arnaz, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Et sans tarder, nous passons à la deuxième phase de cette conférence de presse, à savoir la séance des questions et réponses. Veuillez éteindre vos téléphones ou mettez-les sous mode silencieux. Et ceux qui veulent prendre la parole, présentez-vous et l'organe que vous représentez, et on vous donnera un micro. Pour être plus juste, nous commençons ici. Par Kinshasa, parce que la dernière fois nous étions à Goma. Donc nous prenons sur la droite ici, à Kinshasa, donner une question sur la droite. Oui. Oui, aidez-le. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur Aranaz. Ma question est pour vous. Oui.
Je n'ai parlé d'opération électorale. J'ai parlé, il faut faire la précision, j'ai parlé des processus électoraux. Les processus électoraux, c'était compréhensif de la phase préélectorale, la phase électorale et d'opération, et la phase post-électorale. Nous avons un mandat des conseils de sécurité des Nations Unies de faire le monitoring et le reporting de toutes les violations des droits de l'homme qui sont un impact ou des relations directes avec le processus électoral, pas seulement de l'élection même, la première chose. La deuxième chose, on a parlé avant ça, et comment est-ce qu'on fait ça? On parle d'une manière des droits de l'homme, on parle de la liberté d'expression, association, réunion et la liberté en général. Ce que j'ai dit, c'était qu'il avait, il faut faire la précision importante, il avait 21 cas nouveaux documentés en octobre. À Kasaï, il avait 6 cas et le total des cas documentés qui sont de relation avec le processus électoral et qui peut affecter la crédibilité des processus électoraux à l'avenir, c'est 164, si je me rappelle bien. C'est pour ça qu'il faut documenter, parler de ça maintenant, pour prévenir ou pour améliorer la crédibilité du processus électoral à venir.
Merci. Donc nous prenons une deuxième question ici à Kinshasa, sur la gauche. Passez le micro. Oui, donnez au fond, là-bas, il y a quelqu'un qui... Voilà.
Okay, merci pour la parole. C'est Théodore Gandou pour les comptes de Télé7. Ma préoccupation s'adresse à M. José Maria Arnaz, qui publie pour la énième fois le rapport sur la situation des droits de l'homme. Et vous épinglez, vous pointez du doigt les agents étatiques comme auteurs de ces différentes violations. Est-ce que le Bureau conjoint des Nations Unies, pour arriver quand même à mettre fin à ces multiples violations, ne peut-il pas impliquer ces mêmes autorités étatiques ou ces mêmes agents étatiques dans l'élaboration ou bien dans la mise en œuvre de ces rapports? Parce que les rapports du mois passé, vous avez encore pointé du doigt les agents étatiques. Cette fois-ci également, vous pointez du doigt les agents étatiques. Et aujourd'hui, nous avons la CNDH, qui est une commission nationale. Le BSNUDH ne peut-il pas impliquer la CNDH et ses agents étatiques pour qu'ensemble, qu'on puisse définitivement mettre fin à toutes ces violations de droits de l'homme?
Merci, Monsieur Arnaz.
Merci beaucoup. Très, très bonne question. Comme vous savez, la Commission nationale des droits de l'homme a été formé au mois d'avril. Je pense qu'il faut, ça c'est une question que vous il faut que vous poussiez à la Commission nationale des droits de l'homme. Ce n'est pas à nous, pour moi, pour répondre à son nom. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un programme spécifique de formation, capacitation et renforcement de la Commission. Parce que, comme j'ai dit avant, dans cette même salle, la Commission des droits de l'homme sera un des acteurs principaux de la protection des droits de l'homme et un des mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme les plus importants. C'est pour ça qu'il faut les doter de budgets, d'infrastructures, de cadres légaux et de formation, et aussi d'indépendance politique pour faire son travail. Et c'est pour ça que pour nous c'est une priorité de donner notre appui à ça. L'éradication des violations des droits de l'homme par l'État et par les agents étatiques et non étatiques ne sera une question d'un jour. C'est une procédure qui va de manière progressive. Et c'est pour ça que je parle aussi des efforts de la lutte contre l'impunité, et je souligne surtout quels sont les efforts que le gouvernement a fait pour améliorer la situation de respect des droits de l'homme par les agents étatiques. Et nous travaillons ensemble, on leur donne beaucoup d'appui, par exemple en matière des processus mobiles ou des corps mobiles.
Merci. Tout de suite, nous nous rendons donc à Goma pour prendre aussi deux questions. Je rappelle que nous avons dans la salle l'actuel commandant par intérim de la force de la MONUSCO, le général Jean Bayou, qui prendra les questions d'ordre militaire. Goma, vous avez le micro. Deux questions, s'il vous plaît.
Première question.
Merci. Je suis Monsieur Albert Kambale, correspondant de l'agence France Presse à Goma. Ma question s'adresse au commandant force de la MONUSCO, par intérim, le général Bayou. La population de Miriki, Kimaka et Luofu, bref, le sud du territoire de Lubero, pour la plupart, passe la nuit dans la forêt pour craindre les exactions des FDLR, Maïmaï, qui s'y affrontent chaque jour. À quand l'action militaire de la MONUSCO dans cette partie du territoire, comparaison faite aux opérations contre les ADF dans les territoires de Béni, où la MONUSCO intervient sans tarder, et là où même le général a été sur terrain à Maïmoya, quelques heures après les attaques des ADF. Merci.
Oui, mon général.
Bonjour à tous et merci pour votre question. Je pense que votre question a deux volets, la situation au Lubero et la situation dans la région de Béni. La situation au Lubero est directement liée aux exactions commises par des combattants FDLR et nous sommes parfaitement conscients des conséquences négatives effectivement pour les populations affectées par ces exactions. Vous savez certainement que non seulement nos troupes de la brigade du Nord Kivu, mais aussi la brigade d'intervention est déployée à Miriki. Je suis très précisément cette situation avec le commandant de la brigade d'intervention, mais aussi avec les actions faites par le contingent sud-africain de la brigade d'intervention qui s'est rendu effectivement sur les lieux de ces incidents, qui a vu effectivement les victimes civiles de ces combats, mais aussi un FDR, au moins combattant illégal qui avait été tué. Ce que je veux simplement dire là-dessus, c'est que nous prenons avec toute l'attention nécessaire ces développements. Nous sommes en coordination avec les FRDC pour apporter les meilleures réponses à cette situation et nous allons continuer à nous investir dans notre mandat de protection des civils. Maintenant, juste un mot sur la situation autour de Béni, parce que, effectivement, je tenais à revenir assez rapidement dans cette région et surtout à être au plus près de la réalité des attaques et de l'insécurité que les populations d'Oicha, des Ringeti et des villages entre ces deux communes, en particulier Maïmoya, vivent. Donc non seulement j'étais là après une attaque, mais j'étais là même pendant, puisque nous avons dormi effectivement dans le village, dans la base des Malawites, pour les appuyer, les encourager effectivement dans leurs actions, mais aussi connaître des populations, effectivement, ce qu'ils vivent, et apporter une meilleure réponse pour cela. le point que je tiens à souligner, c'est que aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, nous avons des opérations en cours dans lesquelles la brigade d'intervention, les contingents de Tanzanie, les contingents du Malawi sont vraiment côte à côte dans la forêt avec les FRDC. Ils travaillent ensemble. Ça, je peux en témoigner. J'étais avec eux. Et ce sont les consignes que nous donnons. Ce sont des opérations qui vont se poursuivre. Donc, le seul mot, la compréhension, effectivement, pour les conséquences des exactions d'ADF pour la population, mais surtout notre détermination à poursuivre ces opérations auprès des FRDC.
Merci. Nous restons donc à Goma pour prendre une deuxième question. Une dame de préférence. Jusqu'à présent, nous ne les avons pas entendues. Oui, Goma, une deuxième question. Goma, une deuxième question, s'il vous plaît. Oui, apparemment, nous avons un problème technique avec...
Explique là,
oui.
Monsieur.
Ok. C'est bon, vous pouvez y aller.
Merci. Général, qu'est-ce qui explique la résurgence des ADF d'un coup comme ça? Parce qu'on sait que la MONUSCO a mené des opérations, démantelé les camps et tout. Qu'est-ce qui explique le fait qu'ils se sont réveillés comme ça? Est-ce qu'ils ont eu des renforts de quelque part et comment c'est arrivé sans que peut-être la MONUSCO les soit informée avec son partenaire, les FRDC?
Merci. Je pense qu'il ne faut certainement pas sous-estimer effectivement la dangerosité de l'ADF, mais il ne faut pas non plus se méprendre. Ce sont des réactions d'un ennemi qui est traqué. Ce sont des réactions d'un ennemi qui est maintenant sous la pression d'actions militaires conduites par les FRDC et dans lequel, vous pouvez le constater, la brigade d'intervention, avec tous ses moyens, va s'engager chaque jour davantage. C'est ça la réalité. Et comme il est coincé, comme un animal qui est traqué, il résiste, il cherche à trouver de quoi se nourrir, il cherche à... effectivement tenter de décrédibiliser les forces qui sont chargées de détruire ces bases. Mais notre réponse auprès des FRDC, en soutien des FRDC, c'est notre détermination, c'est notre engagement au combat. Nous avons eu des soldats du Malawi et de Tanzanie qui ont été blessés, certains très grièvement. Nous avons des véhicules qui ont été touchés par de multiples roquettes. Notre détermination est entière pour continuer cette opération. Ne vous trompez pas là-dessus.
Oui, merci mon général. Donc nous revenons tout de suite ici à Kinshasa pour prendre deux questions. Donner une question au fond là-bas, il y a une dame qui lève la main. Oui, allez-y un peu plus vite.
Merci, c'est Marthe Bossouandolé pour l'agence France Presse. Ma question, c'est au général ou au porte-parole civil. Mais avec l'arrivée du nouveau représentant spécial, est-ce qu'on peut espérer la reprise des opérations entre les casques bleus et l'armée et en ce qui concerne la traque des FDLR? Et alors, est-ce que la MONUSCO est prête à embrasser le point de vue du gouvernement dans sa politique de la traque de ces rebelles? Merci.
Bon, général, je vous laisse y répondre. Vous prenez la première partie. Ouais. Mais
écoutez, je pense que la question est totalement politique. C'est une question, une décision, on va dire, qui doit être prise au plus haut niveau. Moi, ce que je peux vous dire en tant que responsable actuellement pour la force, c'est que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous avons depuis maintenant des années, hein, parce que notre expérience remonte au combat contre le M23, d'excellentes relations avec toute la hiérarchie des FRDC. Nous avons aussi des principes et des conditions de soutien auprès des troupes ici, déployées dans ce pays, qui sont parfaitement claires et qui nous permettent d'agir. Nous avons aussi des capacités, et donc le message que je veux vraiment apporter très fermement, aussi à l'attention des populations qui sont affectées par cette insécurité, c'est que lorsque les conditions politiques seront déterminées par les autorités compétentes, nous serons prêts à nous engager.
Oui, merci. Juste peut-être pour compléter, parce que je me rends compte que effectivement, l'arrivée de Monsieur Mamadou Sidikou en RDC suscite des attentes. Évidemment, vous n'êtes pas sans ignorer non plus que la présence de la MONUSCO ici a été décidée par le gouvernement congolais. C'est une volonté des autorités congolaises. Moïse et tous les représentants spéciaux qui se sont succédés jusqu'à ce jour ont mis tout en œuvre pour travailler en étroite collaboration avec les autorités congolaises. Évidemment, comme vous le savez, le contact n'est pas rompu, les contacts se poursuivent et des discussions sont entreprise justement pour que très rapidement cette coopération reprenne au plus vite pour le bien des populations civiles, car nous avons aussi vu et vous avez tous constaté que c'est en unissant nos forces, en fédérant nos efforts, mais aussi en mutualisant nos équipements et nos matériels que nous arrivons à avoir des résultats positifs pour le bien des populations civiles que nous sommes censés défendre. Donc nous restons toujours ici à Kinshasa pour prendre une deuxième question sur la gauche, s'il vous plaît. Oui, sur la gauche. Donnez, il y a une dame, voilà.
Bonjour, c'est Nénette Fomba du journal Opinion. Une question pour les générales. Après le départ de Santos Cruz, quelles sont les méthodes de travail que vous adoptez et pouvant aider les casques bleus à travailler pour satisfaire à l'attente de la population et pour éviter peut-être la frustration ou la déception de ton côté pendant votre période de l'intérim?
Merci. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de travailler avec le général Santos Cruz depuis sa désignation en tant que commandant de la force, il y a 2 ans et 6 mois. J'étais à l'époque à New York. Nous avons vraiment travaillé depuis le premier jour. Nous étions ensemble aussi dans les tranchées de Munigi face au M23, dans les opérations pour la terminaison du M23 à Bunagana. Et ce travail s'est poursuivi jusqu'à la fin du mandat du général Santos Cruz. Auquel je tiens aussi à rendre hommage, auquel aussi je tiens à témoigner devant les journalistes mais aussi nos auditeurs de l'attention extrêmement sincère que ce général a pour le peuple congolais, pour ses souffrances, mais aussi pour les forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles il a la plus haute estime dans leur sacrifice effectivement pour défendre leur territoire et apporter la sécurité aux populations de votre pays. Donc, durant l'intérim et au-delà, je peux vous garantir que nous resterons sur cette même ligne. Sur cette même ligne, effectivement, d'attention à apporter le maximum d'efficacité et encore plus d'efficacité au soutien de processus congolais de neutralisation des groupes armés dans le respect des règles des Nations Unies, mais avec aussi l'attention nécessaire pour que les populations ne soient plus des victimes et soit également épargné par les conséquences d'opérations militaires qui sont malheureusement nécessaires. Contre ADF, il n'y a qu'une seule solution, ce sont des actions militaires. Contre les autres groupes, il est nécessaire d'apporter une pression sur les groupes armés, mais en tout état de cause, nous travaillerons avec tous les partenaires congolais, militaires ou non.
Oui, merci mon général. Peut-être juste pour rassurer ma consœur que lors de la dernière conférence de presse, le général Santos Cruz lui-même avait déclaré publiquement qu'il partait serein parce qu'il savait qu'il avait confié cette force entre des mains expertes, entre des mains engagées. Donc je pense que l'espoir est permis pour que la poursuite des activités militaires puisse se faire en étroite collaboration avec les FRDC et sous le commandement du général Bayeux. Donc merci. Donc nous nous rendons à Goma pour prendre 2 questions rapides à Goma parce que nous arrivons vers la fin de cette conférence de presse. Oui, Goma, très rapidement, 2 questions, s'il vous plaît.
Oui, merci. C'est Maurice Nduko de Michel Pivot TV. Ma question s'adresse à Ranaz. Nous voulons savoir quand est-ce que les bureaux des droits de l'homme qualifient certaines affaires de classifiées, dès lors que aujourd'hui, on parle puis de la tombe commune ou la fosse commune des Maluku. Aujourd'hui, l'affaire, où en est-on? Est-ce que c'est déjà classifié?
Oui, Monsieur Ardanz, rapidement, l'histoire des fosses communes de Maluku.
Oui, nous sommes montré notre offert de coopération aux autorités. C'était une question aux autorités, pas à nous. L'affaire était encore là-bas. Il faut poser la question aux autorités. Qu'est-ce que je peux vous dire? Nous n'avons pas la capacité de faire ça nous seuls et nous travaillons ensemble avec les gouvernements.
Merci. Un peu de silence, s'il vous plaît, pour que nous poursuivions poursuivre cette conférence de presse en toute sérénité. Une deuxième question à Goma, s'il vous plaît. Goma, très rapidement, une deuxième question. Nous n'avons pas beaucoup de temps.
Merci. C'est Norbert Mouloua pour la radio-télévision Kabel et le journal d'émergence. Vous avez le rapport à condamner la détention des frères Bahouma, a également demandé la libération de ce dernier. Ma question est de savoir si nous pouvons savoir d'autres démarches supplémentaires dont votre bureau, monsieur Maria Aranaz, si vous avez justement d'autres démarches que vous faites pour qu'il recouvre justement sa libération. Je vous en remercie.
Oui, merci, nous avons compris, monsieur Aranaz, s'il vous plaît.
Oui, la question de la libération de Fred Bauma, Yves Makwambala, Christopher Ngoy, tous les activistes qui ont été arrêtés depuis janvier, mars et après, tout ça c'est une question qu'on a discuté beaucoup de fois et dans toutes les démarches que nous avons avec les gouvernements et même aussi avec les autorités judiciaires qui à la fin sont eux qu'il faut appliquer la loi d'une manière juste. S'il y a des preuves, il faut les condamner. S'il y a des preuves, il faut les libérer. Et c'est ça que le groupe de travail des Nations Unies a condamné. S'il n'y en a pas de preuves, alors il faut les libérer. Si je peux me profiter aussi pour condamner, parce qu'on a parlé beaucoup de violations des droits de l'homme par les agents étatiques, ce lundi, il avait une attaque contre un de votre collègue, un journaliste qui était battu pendant son travail dans une manifestation. On a condamné ça d'une manière forte et énergique. Il était battu par les manifestants. Et j'avais profité de l'occasion pour condamner la violence et la violence contre tous les journalistes qui font son travail.
Merci. Une dernière question ici à Kinshasa. Oui, passez le micro là. Oui.
Merci. Moi, c'est Flavien Sans pour Planète Télévision. Ma préoccupation, c'est sur le pilier développement. Florence, dans quelques semaines, la conférence France-Afrique sur les réchauffements climatiques. Quelle est la contribution des piliers de développement des Nations Unies dans cet forum, surtout sur le développement économique vers ECOP 21? Merci.
Merci. Florence.
Je vais passer la parole à Geneviève, puisque le PNUD est l'agence qui est un peu leader dans ces interventions aussi.
Oui, Geneviève, bienvenue.
Merci. Merci pour cette question. La RDC est un pilier important en Afrique pour tout ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Et comme Florence l'a dit tout à l'heure, c'est le premier pays francophone qui est capable de montrer à Paris une stratégie pour, premièrement, apporter l'électricité à toute sa population, donc dans l'hémisphère sud, à procéder à des économies de façon à, en tirant au mieux les ressources des énergies renouvelables, et à aussi améliorer au quotidien le quotidien des femmes, comme par exemple éviter qu'elles n'aillent chercher du bois, mais plutôt trouver des sources d'énergie alternatives, comme les foyers améliorés, etc. Donc dans différents points, la RDC a quand même une attitude assez pionnière, et la volonté est exprimée au plus haut sommet de l'État. C'est le chef de l'État qui a déclaré que la RDC devait absolument s'engager dans cette voie, et pour preuve, il y a à peu près une quinzaine de ministères qui sont engagés là-dedans. Ça va de l'environnement jusqu'aux femmes, familles, enfants, en passant par les ressources hydrauliques, etc. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, la RDC est totalement prête à présenter un plan d'action concret à la COP 21 à Paris. C'est pas seulement une conférence France-Afrique, hein, c'est une conférence mondiale. Hein, c'est vraiment important, c'est un accord international qu'on espère de tous les pays du monde pour ne pas augmenter la température de 2 degrés Celsius, donc pour limiter les effets néfastes du réchauffement climatique.
Voilà. Merci à Geneviève. Donc ainsi prend fin notre rencontre d'aujourd'hui. Merci d'avoir fait le déplacement avec nous. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis en direct sur Radio Okapi. À mercredi prochain et bonne et excellente journée.